France Info.
C'est une course, non pas contre la montre, mais contre soi-même à laquelle vous nous invitez, Guillaume Leblanc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université Bordeaux 3, auteur de nombreux ouvrages sur la critique sociale, la norme dans notre société, mais vous êtes aussi marathonien et vous publiez d'ailleurs un petit ouvrage qui s'appelle Courir, un livre aux éditions Champs-Essais sous-titré Méditation physique, parce que donc méditation et course à pied semblent intimement liés à vous lire.
Oui, voilà, je suis parti de l'idée que la course à pied était un bon moment pour voir clair en soi-même, pour essayer de faire un peu un travail de philosophie au quotidien, puisque au fond, je cours maintenant depuis très très longtemps, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je courais, il se passait des choses dans mon esprit, à propos de mon corps, à propos du monde, et donc j'ai voulu un petit peu, dans ce livre, essayer de faire le point sur cette philosophie éphémère qui naît en courant.
Philosophie portative et donc éphémère, vous venez de le dire. Pourquoi elle ne survit pas à la course?
Elle survit rarement à la course. C'est ce que j'appelle l'épreuve de la douche. En règle générale, on est persuadé qu'on a des idées extraordinaires en courant. Et puis au moment où on se douche, on réalise que bon, pour beaucoup d'entre elles, c'était des formes de divagation. Mais je crois que malgré tout, il y a quelque chose de très précieux dans cette façon d'aborder la pensée. D'abord, c'est une façon très ordinaire de penser. On a trop souvent l'habitude de croire que le penseur doit être dans son bureau pour réfléchir à des questions sérieuses sur le monde. Et en fait, en courant, en étant à l'extérieur, dehors, on a toute une série d'idées qui viennent en tête à propos de soi, à propos des autres. Et je pense que aborder la philosophie par cet angle-là est peut-être la meilleure manière d'essayer de faire de la philosophie à sa façon.
Vous dites d'ailleurs que la course permet de tester les philosophies. Si on démarre qu'ancien, on finit spinoziste.
Oui, voilà. Alors, c'est ce que j'appelle un peu une philosophie portative éphémère, parce que quand on commence en courant, on fait appel à sa volonté. En règle générale, il y a toujours des choses plus agréables à faire que d'aller courir. Donc, il faut un acte de volonté, ce que Kant, le philosophe du XVIIIe siècle, a thématisé. Et après, je pense que quand on commence à courir, on est un peu sur un registre de l'illusion selon laquelle, enfin, l'illusion non, mais de la croyance selon laquelle le corps et l'esprit sont séparés. La volonté est dans son coin et, au fond, le corps est comme une mécanique. Alors, on déplie son corps comme un mécanisme et l'esprit, du coup, peut loger ailleurs. Et puis vient le moment quand même de la fatigue, spécialement dans les grandes courses, dans les grandes épreuves, quand on court longtemps. Et quand on commence à être fatigué, on se rend compte que l'esprit est dans le corps, totalement immergé à l'intérieur du corps. Il n'y a plus de dualité esprit-corps. On ne fait plus qu'un avec son corps et c'est ça le moment spinoziste. C'est de se rendre compte finalement que esprit et corps sont une seule et même chose. Et je crois que tout coureur expérimente ça à un moment.
Et d'ailleurs, vous écrivez « Courir est une épreuve métaphysique parce que courir, c'est prendre la décision de courir lorsqu'il est possible à tout moment de s'arrêter ».
Voilà, c'est pourquoi c'est une métaphysique même de la liberté, parce que au fond, je peux décider à tout moment de m'arrêter, c'est-à-dire de me mettre à marcher ou de terminer ma course, et je peux aussi essayer de faire l'effort d'aller un peu plus loin que ce que j'avais prévu. Donc je teste aussi ma volonté, je teste ma liberté, et donc c'est une dimension aussi de la philosophie qui a été très développé chez les Grecs anciens, puis qui s'est perdu à un certain moment, sur laquelle la philosophie est une façon de s'exercer. Au fond, l'idée, c'est que pour qu'une valeur ou une idée ait une forme de valeur, il faut la tester. Et je crois que quand on court, on teste. On teste, est-ce qu'on est vraiment libre? Ben voyons, est-ce qu'on a vraiment de la volonté? Voyons si on peut courir un peu plus loin que ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'on a vraiment un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un corps qui souffre? Autant de dimensions qui sont en jeu naturellement dans la course à pied.
Et ça va assez loin parce que courir, écrivez-vous, veut dire essentiellement que le monde n'est pas à nos pieds, il n'est pas là où il devrait être, il se dérobe et c'est ailleurs qu'il faut le chercher.
Oui, quand on court, on fait le constat que on n'est pas à sa place au fond. Se déplacer, c'est ça. Je me déplace parce que je ne trouve pas à ma place ce qui me convient. Et donc il y a une espèce d'insatisfaction chronique de l'existence humaine qui va voir ailleurs si on y est, justement, conformément à l'adage.
Mais ça veut dire qu'être philosophe, ça vous aide à courir au final ?
Être philosophe m'aide à courir, oui. Et courir, je dirais, m'aide à philosopher. C'est-à-dire que je pense que je philosophe autrement par le fait que je cours. Ça, c'est certain.
Courir, c'est le titre de cet ouvrage, Méditation physique. Guillaume Leblanc, vous êtes l'invité
d'Info.
La journée sur France. C'est un livre que l'on a envie d'offrir à tout adepte de la course à pied, à tout amateur de philosophie appliquée. Ce livre, c'est « Courir, aux éditions Champs Essai, sous-titré « Méditation physique ». Et son auteur, philosophe et marathonien, a fait une halte dans notre studio, Guillaume Leblanc. A priori, le sport du philosophe, c'est pas la course, hein. C'est la marche.
Oui, c'est vrai. Voilà. Depuis que la philosophie est philosophie, dans son ciel grec natal, la philosophie s'est pensée par rapport à l'activité de la marche. Socrate marche énormément avec ses disciples pour s'entretenir de sujets comme le courage, la beauté, etc. Aristote et ses élèves, les péripatéticiens, sont ceux qui font de la philosophie en marchant. Et au fond, dès qu'on trouve une référence à la course, elle est totalement dépréciée, puisque dans le paradoxe de Zénon, Achille, le coureur, finit par être distancé par la tortue, qui, elle, marche de façon besogneuse. Et c'est vrai que la critique de l'accélération du monde, en général, qui est faite avec la critique de la course, c'est de dire que vous ne pouvez plus philosopher dans un monde qui est tout le temps en mouvement, en mobilité.
Mais il n'y a pas qu'une question de vitesse, et vous l'expliquez très bien, Guillaume Leblanc. La course à pied, c'est pas une marche rapide.
Non, voilà. Pour moi, il y a une différence vraiment de nature entre la course à pied et la marche rapide. Quand on marche très rapidement, on a toujours un pied sur le sol. Dans la course, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un moment dans la course où les deux pieds sont hors sol. Et donc, la course à pied, c'est vraiment un exercice de percussion du sol, de telle sorte que cette espèce de rythme propre à la course, je percute le sol, ça c'est le côté pesanteur, et puis je m'élève, c'est le côté grâce. Ce rythme de la course induit, je crois, un travail mental tout à fait particulier, parce que au fond, à force de percuter comme ça le sol en série, on finit par ne plus avoir de résistance psychique. La résistance psychique, elle saute. Et très rapidement, d'ailleurs, tous les coureurs vous le diront, quand ils commencent à courir, vous courez, vous êtes préoccupé par votre journée, le stress quotidien, etc. Il y a un moment où tout ce stress finit par disparaître et laisser place à une espèce de vide dans lequel n'importe quelle idée va apparaître sous une forme quasi aérienne. Et je crois que cette mobilité-là, elle est extrêmement intéressante pour penser justement en courant. C'est un moment irremplaçable. Personne d'autre que vous ne peut courir à votre place parce que, justement, vous êtes seul à pouvoir faire cette expérience-là. Et c'est pourquoi, moi, je préconise vraiment de retirer toute forme de branchement, des appareillages quand on court, parce que courir, c'est justement se détacher de tout ça pour arriver à trouver ce rapport à soi-même.
Est-ce qu'il y a une dimension politique dans la course à pied ? Vous expliquez que la course est peut-être un symptôme de société néolibérale. Faut comprendre que quoi que courir serait de droite et marcher de gauche.
Alors c'est vrai que bon, on se souvient de l'ancien président Sarkozy, voilà, qui courait régulièrement. Et Hollande lui-même s'est imposé comme l'homme normal, plutôt celui qui marche, hein, qui ne fait jamais de sport et qui ne court pas surtout. Donc avec l'idée qu'il fallait ralentir un peu le rythme. Mais je crois que cette opposition gauche-droite, c'est plus une mise en scène de la politique. Mais je pense plus fondamentalement que dans la course, oui, il y a une dimension politique qui est cette idée de l'accélération. Au fond, nous vivons dans un monde de l'urgence, de l'accélération permanente. Et je crois que la tentation a été grande pour beaucoup de penseurs, je pense à certaines analyses de Baudrillard par exemple, de faire de la course un symptôme finalement dans le corps de chacun de ce néolibéralisme de l'accélération et de la mobilisation permanente. Mais je crois malgré tout que la course va au-delà de cette dimension néolibérale de l'accélération. Parce que, en réalité, dans la course, on renaît à son corps, on renaît à une aventure limitée. Je crois que, avec Internet, avec l'aventure de l'immatériel, on a une illusion de l'illimité. On peut se connecter avec son voisin, entre guillemets, qui est à l'autre bout du monde. Et du coup, on ne sait plus vraiment ce que c'est qu'exister. Or, je crois que courir, c'est réapprendre à exister d'une manière très limitée, c'est-à-dire dans les frontières même de son corps. Qu'est-ce que c'est qu'un corps ? Jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser ? Courir, c'est apprendre justement, paradoxalement, à ne pas aller trop vite. On confond très souvent la course avec la frénésie, donc l'accélération permanente du monde. Mais je pense qu'au contraire, celui qui fait vraiment l'expérience de la course, c'est quelqu'un qui apprend à ralentir, c'est-à-dire à trouver un rythme dans lequel il peut se développer, dans lequel il peut se sentir en harmonie avec lui-même.
Guillaume Leblanc, marathonien et philosophe, invité d'inviter toute la journée sur France Info. Depuis ce matin, nous tentons de comprendre en quoi la course à pied peut avoir une démarche philosophique avec un marathonien philosophe, avec vous, Guillaume Leblanc. Et j'aimerais dans cette dernière partie que l'on parle de souffrance et d'amour. La course, c'est aussi le plaisir de souffrir ?
Oui, là, paradoxalement, on oppose très souvent la souffrance au plaisir. Et je crois qu'on devrait plutôt opposer la douleur au plaisir. C'est-à-dire qu'effectivement, une douleur, d'une certaine manière, je ne choisis pas d'avoir mal. Elle me tombe dessus, on me pique, j'ai mal. C'est l'écrivain japonais Murakami, qui était
un
très grand coureur, qui, dans son très beau livre sur la course à pied et l'écriture, dit que souffrir est une option, alors que la douleur, elle, est un fait. Et je crois qu'il a raison. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans la souffrance que l'on peut s'infliger lorsque on court, on essaie d'explorer des domaines peut-être moins connus de soi-même, qui amènent vers des formes de plaisir un peu inconnues. Donc il n'y a pas à opposer souffrance et plaisir. La frontière, et c'est ça qui est troublant quand on court, la frontière, elle est extrêmement poreuse.
Murakami fait aussi le parallèle entre courir et écrire.
Oui.
C'est quelque chose que vous reprenez à votre compte ?
Ah oui, totalement. Je pense qu'il décrit l'écrivain comme un coureur de fond, et j'essaie effectivement de faire un portrait du philosophe en coureur de fond, et aussi le portrait du coureur en philosophe, du coup. Mais je crois que oui, il y a un lien évident entre la rigueur que l'on s'impose dans le fait d'écrire et aussi la rigueur que l'on s'impose dans le fait de courir.
Et puis alors, vous écrivez également que courir à plusieurs, c'est une façon de faire l'amour.
Oui, voilà, c'est un... C'est
alors une... là, ça laisse pantois.
Oui, voilà, alors exactement, parce que le m'intéresse beaucoup à ce phénomène qui est très troublant, qui est le fait de courir à plusieurs. Mais quand je dis à plusieurs, là, il faut le comprendre dans des phénomènes presque de meute, qui sont les grandes courses mondialisées, au fond.
Ça, c'est faire l'amour avec beaucoup, beaucoup de gens.
Ah oui,
quoi.
Oui, ouais. Voilà, c'est une espèce d'érotologie généralisée. Parce que quand on pense que dans les années 50, les coureurs étaient à peine quelques milliers, et puis maintenant, dans les grands marathons mondiaux, on est 50 000, 60 000, et encore, il y a des limites.
Bon, mais pourquoi ça revient au même?
Parce que ce qui est extraordinaire dans cet apprentissage de la course à plusieurs, c'est que c'est une façon finalement de vivre le monde de manière totalement pacifique. Et je crois que la course à pied est totalement là-dedans, c'est-à-dire que dans une course, le marathon de Paris, le marathon de New York, de Rome, etc., on a des occupations extrêmement joyeuses de la ville, des occupations pacifiques, dans lesquelles effectivement on court seul, mais dans lesquelles en même temps on court à plusieurs. On est relié, connecté avec tous ceux qui sont autour. Et ça produit un plaisir intense.
Alors ça peut être aimer les autres, mais aussi il y a un rapport presque sexuel.
Oui.
Parce qu'il y a une relation tout à fait particulière,
oui,
au corps.
Il y a une relation quasiment sexuelle par le fait que dans ce corps à corps qui est la course à plusieurs, on se trouve entouré, démultiplié par tous les corps qui sont autour de vous. De façon très concrète, on peut d'ailleurs arriver à finir un marathon parce que quelqu'un vous a donné une tape au 35e kilomètre sur l'épaule ou ailleurs sur le corps en vous disant « tu vas y arriver », etc. Il y a toute une gestuelle corporelle de la course qui est vraiment unique et qui, je crois, s'inscrit quand même dans l'idée d'un rassemblement joyeux, pacifique. Et je suis très attentif au fait que justement les individualités, elles renaissent d'une certaine manière dans cette meute au tout début, bon, pour les premiers coureurs, ceux qui sont en tête, et à la fin pour ceux qui sont expulsés de ce peloton, etc. Voilà, on a les individualités se reconstituent au début et à la fin de, mais la meute en elle-même comme un groupement de corps en fusion, ça a quelque chose d'assez unique.
Guillaume Leblanc, le meilleur moment de la course, c'est quand ? Quand ça s'arrête ?
Le meilleur moment de la course, je dirais quand on court tous les jours, ou c'est ce qu'on ressent quand on se sent vraiment très très bien. Ce moment qui est furtif, hein, qui peut exister au 4e kilomètre, au 5e, au 8e, où brusquement on a l'impression qu'on fait corps avec le paysage, qu'on sent son corps, cette espèce de flottement, c'est une jouissance exceptionnelle. Le meilleur moment quand on court en revanche une course, c'est effectivement le moment où ça s'arrête, c'est-à-dire ce sont les 200 derniers mètres dans lesquels on est en état d'apesanteur.
Merci.
Merci.
Guillaume Leblanc, on est arrivé au terme de notre marathon radiophonique et merci
à vous
d'avoir en tout cas participé à cette course. On va évidemment conseiller à tous les auditeurs de se précipiter sur ce livre « Courir, méditation physique » aux éditions Champs.